du rachat, qu'on fera un message sur le rachat, mais j'ai besoin de... C'est pas que j'ai besoin de temps, mais j'ai besoin de deux exemples pratiques. On a celui avec Jésus qui nous a rachetés. Mais il y a un exemple pratique dans le livre de Ruth qui commence à circuler au chapitre 3 et au verset 4. Et on va attendre un petit peu plus tard, dans quelques semaines, pour parler finalement du rachat. Je pense que le rachat est important parce que la Bible ne dit pas que Jésus nous a achetés, mais c'est qu'il nous a rachetés, c'est-à-dire qu'on avait déjà été vendus. Et Jésus nous a rachetés. Paul nous rappelle que dans Romains chapitre 7, on était vendus au péché et Christ nous a rachetés. Rachetés. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, quand il voit arriver Jésus, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui efface non pas les péchés du monde, mais qui efface le péché du monde. » Et il y a un passage des Écritures qui nous dit que le péché est entré dans le monde à travers un seul homme, Adam. Alors, voilà. Et on regardera ça dans quelques semaines. Concernant le rachat. Alors, on va lire ce matin les versets 21 à 23 du chapitre 2. Alors, on utilise toujours le mot « Moabite » pour nous rappeler qui est Ruth. Et le verset 21 commence ainsi. « Ruth, la Moabite, ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs, elle parle de Boaz, jusqu'à ce qu'il ait achevé toute ma moisson. » Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, « il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes, et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour de l'année, jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment, et elle demeurait avec sa belle-mère. Prions. Seigneur, encore une fois, nous nous présentons devant ton trône de grâce, Seigneur, pour que tu puisses avoir toute cette ouverture d'esprit, Seigneur, de notre part pour recevoir ce que tu as en réserve pour chacun de nous. Merci pour ta parole qui est vivante, merci pour ta parole qui est éternelle. Et Seigneur, encore une fois ce matin, nous voulons non seulement nous contenter d'entendre, mais de mettre en pratique ce que l'Esprit a à dire à son Église. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus, nous te demandons. Amen. Alors, en tant que chrétien, il n'y a rien de plus important que de comprendre en quoi consiste la volonté de Dieu et de faire ce qu'il veut. Parce que découvrir ce que Dieu veut et obéir à ce que Dieu veut sont deux choses essentielles qui doivent s'appliquer à faire, finalement tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui sont passés par cette nouvelle naissance. George W. Truett a dit ceci, c'est un prédicateur baptiste, il a dit que la chose la plus importante à connaître, c'est de savoir ce que Dieu veut. La plus grande découverte à faire, c'est de trouver ce que Dieu veut. Et la chose la plus importante à accomplir, c'est de faire ce que Dieu veut. Myriam Booth, la fille de William Booth, fondateur de l'Armée du Salut, était une femme brillante et cultivée qui a commencé une œuvre très tôt pour le Seigneur. Elle réussissait dans tout ce qu'elle faisait et pourtant, elle tomba gravement malade au point presque de mourir. Et un ami lui dit qu'il était dommage qu'une femme comme elle, qui avait autant de capacités, soit arrêtée dans l'œuvre du Seigneur par la maladie. Elle répondit, « Il est vrai que c'est merveilleux de faire l'œuvre du Seigneur, mais c'est encore plus merveilleux de faire sa volonté. » Vous êtes amen à ça? Oui. David dit, « Enseigne-moi à faire ta volonté. » Hein, le psaume 143, « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise dans la voie droite. » Et la voie droite, on sait c'est quoi? C'est le chemin étroit. La voie droite, c'est le chemin qui est juste. C'est le chemin que Dieu nous montre à travers la personne de Jésus-Christ. Jésus a dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Quelqu'un a dit, « Celui qui agit en dehors de la volonté de Dieu ne peut réussir, et celui qui agit en accord à la volonté de Dieu ne peut pas échouer. » Je trouvais ça intéressant comme phrase, comme pensée. « Celui qui agit en dehors de la volonté de Dieu ne peut pas réussir, et celui qui agit en accord avec la volonté de Dieu ne peut pas échouer. » La clé pour être béni de Dieu, c'est de faire sa volonté. Cecil Rhodes, un homme d'affaires anglais, a dit ceci, « S'il y a un Dieu, s'il prend soin des hommes, alors la chose la plus importante dans le monde, c'est de savoir ce qu'il veut que je fasse et de le faire. » Et je terminerai avec deux autres exemples. David Livingstone, un médecin missionnaire anglais, a dit, « Je préfère être au cœur de l'Afrique en faisant la volonté de Dieu que d'être assis sur le trône de l'Angleterre si ce n'est pas sa volonté. » Écoutez attentivement ce que Alan Redpa, un pasteur et évangéliste anglais, a déclaré. « Je dis sans hésiter que si chaque chrétien était soumis à la volonté de Dieu, nous connaîtrions continuellement un réveil à travers son Église. La grande tragédie de l'Église, celle que les chrétiens nés de nouveau, rachetés par le sang de l'agneau, habités par le Saint-Esprit, ne veulent pas renoncer à leurs ambitions personnelles et refusent de se soumettre à la volonté de Dieu pour leur vie. La chose qui freine un réveil, qui élève un rempart, empêchant Dieu d'agir avec puissance pour toucher les cœurs, ce sont les chrétiens qui ne se soumettent pas à la volonté de Dieu. Si je veux expérimenter, termine-t-il, l'œuvre de Dieu dans ma vie, je dois m'appliquer à faire la volonté de Dieu dans ma vie. » Et de là, pendant le passage que nous avons devant nous, il y a un certain nombre d'enseignements que nous pouvons glaner ce matin concernant la volonté de Dieu. Comme nous l'avons vu dans ce chapitre, Ruth est en train d'apprendre et elle progresse dans sa vie chrétienne à travers ce qu'elle est en train d'expérimenter. Dans ce processus d'apprentissage, elle est amenée à obéir à Boaz et si elle veut recevoir les bénédictions qu'il en réserve pour elle. Verset 21. La première vérité que j'aimerais porter à votre attention ce matin, c'est que Dieu veut montrer ou va montrer ce qu'il veut pour Ruth à travers Boaz. Verset 21, il est écrit au verset 21, « Ruth, la Moabite, ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. » Rappelez-vous ce que Boaz a dit à Ruth au verset 8, un peu avant. « Écoute, ma fille, ne va pas de l'année dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. » En relisant ces mots, nous voyons ici que Ruth avait compris quelle était la volonté de Dieu pour sa vie. Elle déclare à Naomi, il m'a dit en d'autres mots, hein, il m'a dit, verset 21, puis la Moabite ajouta, il m'a dit. En d'autres mots, elle est en train de dire que Boaz lui a fait connaître ce qu'il désirait pour elle. Il lui a dit ce qu'il voulait lui montrer et ce qu'il voulait. Il lui a dit, ce que je veux, c'est que tu restes dans mon champ avec mes serviteurs. Frères et sœurs, Paul écrit dans Éphésiens chapitre 10, 5, 17, « Efforcez-vous de comprendre comment le Seigneur veut que vous agissiez. Si Dieu veut quelque chose pour ma vie, et c'est le cas, alors il va de soi qu'il veut que nous sachions en quoi consiste sa volonté. » Amen. Ouais. Il est important de réaliser que l'Église, c'est un monde, c'est une société, et le monde, c'est un monde. L'Église, c'est une société en parallèle du monde dans lequel on baigne. Le monde est dirigé par un roi, par un prince, le prince des ténèbres, et l'Église est dirigée par un roi, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Entre les deux mondes, entre les deux royaumes, il y a des valeurs qui sont complètement différentes. Complètement différentes. L'approche pour vivre, eh bien, elle est totalement différente puisque l'approche dans le monde pour vivre n'est pas celle que Dieu veut qu'on vive. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a des heurts. Et ici, eh bien, Ruth va apprendre à travers Boaz, hein, qui est une image de Jésus-Christ, elle va apprendre à non seulement à connaître la volonté de Dieu, c'est-à-dire qu'est-ce que Dieu veut pour sa vie, mais aussi prendre la décision d'obéir à ce que Dieu veut pour sa vie. Je crois qu'il y a deux principales raisons pourquoi les gens ne savent pas en quoi consiste la volonté de Dieu. La première, c'est qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils savent être déjà la volonté de Dieu. Nous savons que nous ne devons pas abandonner nos assemblées, c'est écrit. Nous savons que nous avons besoin de prier, de lire la Bible, la parole de Dieu. Et pourtant, nous désobéissons souvent à toutes ces choses. Je pense à ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 7, versets 16 et 17. « L'enseignement que je donne n'est pas de moi, mais vient de Dieu qui m'a envoyé. » C'est intéressant, l'enseignement qu'on a reçu de nos parents, s'ils n'étaient pas chrétiens, en tout cas je parle personnellement, c'était un enseignement qu'ils avaient hérité de leurs parents, de leurs grands-parents. C'était un enseignement qui venait du monde puisqu'ils n'étaient pas chrétiens. À partir du moment où je passe par une nouvelle naissance, je change de société, je change de monde, je change de façon de vivre, et là, je dois apprendre finalement des nouvelles valeurs. Des nouvelles valeurs morales qui viennent de Dieu et qui sont totalement différentes des valeurs morales que dans le monde dans lequel on baigne. Et aujourd'hui, si vous voulez apprendre des valeurs morales que dans le monde, ben j'ai l'impression qu'il n'y en a plus beaucoup, quoi. Il n'y a pas grand-chose à apprendre comme valeur morale dans le monde avec tout ce qu'on vit. Mais Dieu, lui, est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Ses valeurs sont toujours les mêmes. Ses valeurs morales de Dieu, elles sont éternelles. Comme sa rédemption est éternelle, comme sa parole est éternelle. Et c'est pour ça qu'on peut s'appuyer sur ces paroles, sur cette parole, parce qu'elles vont, transcender ce monde lorsque Dieu détruira toute chose. Et on va passer l'éternité avec non seulement la parole de Dieu, mais celui qui est la parole de Dieu. Amen. Jésus dit, l'enseignement que je donne n'est pas de moi, mais vient de Dieu qui m'a envoyé. Celui qui est disposé à faire ce que Dieu veut. Celui qui prend la décision dans son cœur de dire, oui, Seigneur, je veux faire ta volonté. Saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle par ma seule autorité. Si quelqu'un ne fait pas ce que Dieu lui a révélé, il y a de fortes chances qu'il ne fera pas ce qui lui sera révélé par la suite dans la parole de Dieu. Amen. Hein, si vous avez reçu une révélation dans le passé, dans la parole de Dieu, et que vous ne l'avez pas mis en application, il est fort possible que les prochaines révélations que vous allez recevoir de Dieu, vous ne les mettrez pas plus en application. Si quelqu'un, écoutez, vous mettez une scène, on dit un centime ici en Belgique, un centime, et que la personne n'est pas capable de résister pour ne pas prendre un centime, et que là, vous la coincez, vous lui dites, écoute, tu viens de te voir voler un centime. Ouais, ouais, mais un centime. La question que je me pose, moi, si je lui mets un million, je suis pas convaincu qu'elle va être capable de résister à prendre quelques billets à travers le million, ça n'a pas été capable de résister à un centime, quoi. Et c'est tout à fait logique, quoi. On trouve pas ça grave de prendre un centime, mais de prendre quelques billets à travers un million qui paraîtront plus ou moins, eh bien, on va finir par trouver ça aussi pas plus grave, quoi. Et je pense que c'est la même chose avec la parole, quoi. On n'a pas à choisir ce qu'on doit faire dans la parole. Et un des problèmes aujourd'hui, c'est qu'on choisit souvent, OK, moi je vais obéir à ça, je suis prêt à obéir à ça, mais je suis pas prêt à me soumettre à ça dans la parole. Et finalement, ça fait qu'on n'est pas satisfait et on n'a pas nécessairement cette joie dans notre cœur. J'écoutais un message de... Bon, je me souviens plus de son nom. Ah, c'est pas drôle. Mais il disait souvent que quand on a perdu notre joie dans le Seigneur, c'est parce qu'on a laissé entrer du péché dans nos vies, c'est parce qu'on a fait du compromis dans nos vies. Et il dit que finalement, on doit toujours revenir à la base, revenir à la parole qui est un miroir à travers lequel Dieu nous parle, à travers Dieu aussi, à travers lequel Dieu nous montre ce qu'il veut pour chacun de nous, et pour être capable de retrouver cette joie qu'on a perdue parce qu'on a laissé des choses entrer dans nos vies qui ne correspondent pas aux valeurs morales de Dieu, qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. La deuxième raison pour laquelle les gens ne comprennent pas ce que Dieu veut, c'est qu'ils veulent vérifier d'abord et décider ensuite. Et si cela correspond à ce qu'ils veulent faire, en fait. Alors, on dit à quelqu'un, écoutez, tu as un appel sur ta vie, ou écoutez, Dieu appelle des gens, eh bien, souvent, il y en a qui veulent connaître les conditions de travail, socialement parlant, les avantages sociaux, voilà, les avantages sociaux et tout le reste, avant de prendre une décision pour suivre le Seigneur. Et c'est certain que c'est pas facile de prendre une décision lorsque Dieu nous appelle. Mais je vais vous donner un exemple, parce qu'il y a tout un combat. Hein. Je vais vous donner mon propre exemple. Lorsqu'on était au Québec et qu'on fréquentait une église baptiste, à un moment donné, on est allé à l'armée du salut, on est devenu officier de l'armée du salut. Et là, l'armée du salut, elle nous a appelé, mon épouse et moi, dans le bureau, le colonel nous a appelé, il nous a dit, écoutez, on a un appel outre-mer pour vous.
Ah!
Alors, on a dit « Où? » Ah, il a dit, avant de vous dire « Où? » Je vais attendre que vous me disiez « Oui. » On a quand même 4 enfants, quoi. Et là, ça nous appelait à tout abandonner, quoi. Les frères et sœurs qu'on connaissait au Québec, certains avantages qu'on avait, ça nous amenait à tout abandonner. Alors, on a dit au colonel, « Écoutez, donnez-nous 2 semaines pour réfléchir. » Et mon épouse et moi, ce qu'on a fait, on a pris une feuille, et on a pris une feuille blanche, et là, on a séparé la feuille en deux. On a marqué les pourquoi on devrait partir et pourquoi on devrait rester. Ça nous a pris 2 semaines pour compiler ça. Et finalement, on s'est aperçu que les raisons pour lesquelles on devait rester, c'était des raisons purement égoïstes, quoi. C'est que oui, on est bien au Québec. Écoute, on sait pas où on s'en va. Il y a des fast-food. Il y a beaucoup de fast-food. Il y a beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup de ci. Il y a beaucoup de ça. Et ainsi de suite. Alors, on s'en va. Nous, on s'est dit, on est francophone, il va sûrement nous envoyer dans un pays francophone. C'est peut-être en Afrique, dépendant de quel pays. On n'a pas tous ces avantages-là, quoi. C'était des avantages purement, c'était des pensées purement égoïstes, quoi, des raisons purement égoïstes qui nous empêchaient. Et quand on a regardé dans la colonne des pour, ben on se disait qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est qui pour refuser un appel que Dieu place sur nos vies. Et on est allé le trouver, et on l'a dit, écoutez, on dit oui. On dit oui à votre proposition. Et finalement, on a dit, est-ce qu'on peut savoir où? Et il dit, c'est un immense pays qui s'appelle la Belgique. Ah. Je me souvenais que le mot Belgique, j'avais entendu, c'était dans les livres de Tintin. Quand j'ouvrais la bande de Tintin, Casterman, Belgique. Je suis honnête avec vous, hein. C'était la seule fois où j'avais entendu le mot Belgique, hein, qui est coincé entre la France et l'Allemagne, donc on ne le voit pas tellement, quoi. Il est très petit, très discret. Et la Belgique, ben, en fait, c'est 33 fois plus petit que... le Québec, c'est 33 fois plus grand que la Belgique, donc on comprend que c'est un petit pays pour nous, quoi. Mais on a répondu à cet appel-là. Et on est venu ici, et moi, j'ai eu de la difficulté pendant les deux premières années à faire cette coupure avec la tradition, avec les traditions nord-américaines. Ça m'a pris un certain temps. Mais je savais qu'on était dans la volonté parfaite de Dieu pour venir ici. Alors, nos enfants, il y en a qui n'avaient pas commencé l'école, il y en a qui commençaient, les deux derniers, je pense qu'ils n'allaient pas encore à l'école, et on a dû s'adapter. Et en fait, on avait signé pour 3 ans, quoi. Donc, c'était tout un changement. C'était un changement, 3 ans renouvelables, et ainsi de suite. Mais on savait, on avait dans notre cœur, on avait une conviction en regardant cette feuille de papier blanche qu'on avait fait, que, écoute, on est capable de renoncer à tel salaire, on est capable de renoncer à tel avantage parce qu'on sera jamais, jamais perdant avec Dieu. Vous êtes amen à ça? Vous n'êtes jamais, jamais perdant avec Dieu. Jamais. Jamais. Je suis persuadé que si j'avais dit non, je ne serais pas aussi riche aujourd'hui que je l'aurais été. Parce que là, en venant en Belgique, on a trouvé une famille. Qui est vous? On a trouvé une église. Vous êtes notre maison, quoi. Ouais. Pourtant, j'ai fait 8 églises. On a fait 8 églises avant de rentrer ici. Et vous êtes vraiment notre famille. Et moi, je ne serais plus capable de retourner au Québec parce que vous êtes ma famille. Alors, on a gagné beaucoup parce que dans les autres églises, on s'est aperçu qu'on n'avait pas cette relation avec les frères et sœurs qu'on a avec vous. Vous nous avez apporté énormément depuis 13 ans, depuis 14 ans maintenant, on commence à être 14e. Vous nous avez apporté énormément. Et ça serait vraiment dans les larmes qu'on se séparerait de vous. Alors, je ne sais pas si vous, vous applaudiriez si je pars, mais moi, ça serait vraiment dans les... Ça serait vraiment... Ça fait 14 ans que vous nous supportez, hein. Mais ça serait vraiment avec tristesse que je vous quitterais. Si Dieu nous appelle ailleurs, bien sûr. Mais chaque chose en son temps, et quand on est venu ici, eh bien, on a rencontré le conseil des anciens, le répondu à leurs questions, et même si ça coïncidait pas tout à ce que nous, on s'attendait, on avait la confirmation que c'était l'appel de Dieu. Et s'il y a des choses qu'on a dû attendre, eh bien, ça s'est formalisé dans les années qui sont venues, et on peut dire honnêtement que Dieu nous a richement bénis à travers vous, richement bénis. Richement bénis, il n'y a pas une église en Belgique qui aura pu nous donner ce que vous nous avez donné, ce que vous nous avez apporté en 14 ans. Et ça, ça fait vraiment chaud à mon cœur, ça, de vous le dire ce matin. Ouais. Quand on me dit que l'Église de Lin, c'est une Église légaliste, moi, je sors les fusils et j'explique aux gens que c'est parce qu'ils sont jamais venus à l'Église de Lin, parce que l'Église de Lin est loin d'être une Église légaliste. L'Église de Lin a un accueil extraordinaire. Vous pouvez pas savoir la renommée que vous avez à d'autres endroits, même en dehors de la Belgique. Comment votre accueil, il est extraordinaire. Comment vous êtes des gens qui êtes chaleureux. Comment vous avez à cœur, vous avez un fardeau pour les âmes qui sont perdues. Il y a des gens, il y a des nouvelles personnes ici, il y a presque à chaque mois qui rentrent dans cette église, quoi, et qui y demeurent. C'est extraordinaire. Vous n'êtes pas tombé dans le piège de dire, on est une petite clique, on va former un club social et on va être bien ensemble. Vous avez compris la mission à laquelle Dieu vous appelle, quoi. Et les nouvelles personnes, je les rencontre, et elles me disent qu'elles se sentent bien ici dans l'église, quoi. On est vraiment une famille. Et c'est ce qu'elle se représente aux yeux de Dieu. Christ est mort pour nous donner une famille, quoi. Nous étions orphelins de Dieu. Et Christ, à travers Christ, Dieu nous a donné une famille. Et il y a des hauts et des bas dans une famille. Il y a des incompréhensions dans la famille. Mais ça fait partie du plan de Dieu. Dieu travaille à travers nos incompréhensions. Dieu travaille avec certaines de nos façons de penser qui sont différentes. Dieu travaille. Et s'il n'y a pas de division, ça démontre jusqu'à quel point l'amour de Dieu règne dans nos vies. L'amour de Jésus-Christ règne dans nos vies. Amen. Ouais. Verset 23, nous voyons un engagement qui est... Ruth, elle prend cet engagement à faire selon la volonté de Dieu. Il est écrit au verset 23, « Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. » Boaz lui avait demandé de rester jusqu'à la fin. Christ nous demande de rester jusqu'à la fin. De continuer à œuvrer jusqu'à la fin, ça fait partie de l'appel qu'il a sur nos vies. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Nous voyons qu'elle a non seulement compris ce que Boaz voulait, mais qu'elle va s'engager à faire ce qu'il voulait. Il a dit en elle, elle s'est soumise à sa volonté. Elle a compris et elle s'est conformée. Elle a reçu les ordres de Boaz et elle a obéi. Frères et sœurs, ce matin, il y en a peut-être parmi vous qui peuvent se sentir limités et estimer ne pas pouvoir faire des choses pour Dieu. Mais Dieu fonctionne autrement parce que notre capacité, elle vient de Lui. Amen. Vous ne travaillez pas pour Dieu, vous travaillez avec Dieu, dit l'apôtre Paul. Dieu, c'est pas un employeur. C'est pour ça qu'on n'est pas censé avoir sentir des fardeaux sur nos vies si on est appelé dans l'œuvre du Seigneur. Il les porte encore, nos fardeaux. Ça s'est pas limité quand il était là, il les porte encore. Et c'est pourquoi si on est vraiment dans l'appel du Seigneur, dans l'œuvre de Dieu à laquelle Dieu nous a appelés, on peut dire comme Naomi, au verset 22, il est bon. Il est bon d'œuvrer pour le Seigneur. Il est bon de travailler avec lui. Il est bon de se soumettre à ses ordres. Parce qu'il honore celui qui l'honore. Amen. Ouais. Jésus dit dans l'évangile de Jean, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais qu'il exauce celui qui l'honore. Si on marche dans ses voies, Dieu va nous honorer. Frères et sœurs, quand on a un appel sur nos vies, comme Boaz, le piège du malin, c'est de nous dire, écoute, pense à tout ce que tu vas perdre. Et jamais ne fait penser à tout ce qu'on va gagner. Et on a bien plus à gagner avec Dieu qu'avec le diable. Pense à tout ce que tu peux perdre. Oui, on a vendu notre maison. Oui, on s'est débarrassé de nos voitures au Québec. Oui, on s'est débarrassé de tout ce qu'on avait. Oui, on a quitté le confort. Je me souviens, le premier lit dans lequel on a dormi, c'est deux lits collés ensemble et il y avait presque un étage de différence entre le matelas d'un et le matelas de l'autre, quoi. Oui, on a quitté tout ça. Et quelques mois après, Dieu nous donnait une maison neuve à Verviers. On était les premiers à rentrer dedans. Oui, Dieu honore celui qui l'honore. Paul l'avait compris, il écrit, Dieu a choisi. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26. Dieu a choisi ce que le monde estime fou pour couvrir de honte les sages. Il a choisi ce que le monde estime faible pour couvrir de honte les forts. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5 et 6. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 5 et 6. Quelle humilité de la part du grand apôtre Paul. Il ajoute ceci. Nous ne pouvons prétendre en aucune façon être capables d'accomplir une telle œuvre par nous-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur. Ce que nous sommes capables de faire vient de Dieu, car c'est lui qui nous a rendus capables d'être ses serviteurs, de la nouvelle alliance, qui ne dépend pas d'une loi écrite, mais qui dépend du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui agit à travers des êtres incapables. Et vous savez, Dieu, dans son royaume, n'a pas besoin de gens capables. Parce que les gens capables, ils n'ont pas besoin de Dieu. Dieu, c'est des gens incapables qu'il veut utiliser pour manifester jusqu'à quel point rien ne lui est impossible et travailler à travers des gens qui... Dans toute humilité, il dit, Seigneur, je suis incapable. Si t'es pas là, si t'agis pas, je suis incapable d'accomplir l'œuvre à laquelle tu m'as appelé. Je suis pas en train de parler d'évangélisation, là. Je suis en train de parler des œuvres dans l'Église. Il y a des œuvres à faire aussi dans l'Église. Il manque des gens à l'école du dimanche, quoi. Il manque des gens au comité mission. Il manque des gens sur le comité des jeunes. Il manque des gens à différentes places. C'est pas juste à l'extérieur, c'est aussi à l'intérieur pour être en mesure d'équiper les saints pour qu'eux puissent sortir à l'extérieur. Vous pouvez être limité dans certains domaines, mais Dieu a un but, un plan pour votre vie et un endroit ou un ministère dans lequel vous êtes appelé à le servir. Nous n'avons pas à nous demander dans quel est l'endroit, pourquoi il nous appelle à cet endroit, ni même quand il nous appellera à cet endroit, mais simplement obéir et dire oui. Moi, je me souviens que j'avais commencé à faire mon premier camp d'évangélisation avec les jeunes, avec mon épouse. Et c'était le pasteur René Hinault. Qui connaît René Hinault ici? C'est un Belge. La première fois que j'étais en contact avec un Belge. Voilà, la famille Hinault, là, qui habite dans le pâturage, dans ces coins-là. Voilà. Il avait été 22 ans, lui, en Afrique, comme missionnaire. Et il me partageait ses expériences de vie. Il me dit, ici, au Québec, tu ne verras jamais de miracle. Alors, moi, j'étais jeune chrétien, mais ensemble, plein de figures, je dis comment? Mais non, vous avez tout. Vous n'avez pas besoin de Dieu. Vous avez tout. Mais en Afrique, moi, j'ai vu des miracles. Parce qu'en Afrique, dans certains coins, on n'avait rien. On se mettait à genoux, on priait, on demandait à Dieu de nous donner la chose, et la chose était donnée. Ici, pas besoin. Fouillez dans vos poches, sortez de l'argent, vous allez acheter. Vous pensez même pas demander à Dieu d'accomplir les miracles dans vos vies. Et là, en tant que jeune chrétien, je lui demandais, mais comment je fais pour savoir quelle est la volonté de Dieu? Parce que j'ai des gens qui m'ont dit, écoute, tu pries, et si Dieu ouvre la porte, mais ça veut dire que c'est sa volonté. Ah, il m'a dit, là, je te reprends tout de suite, Jacques. C'est le contraire. C'est le contraire que tu dois faire. Tu veux connaître la volonté de Dieu, tu fonces. Et si c'est pas la volonté de Dieu, je peux te dire une chose, la porte va rester fermée. J'ai trouvé que c'était intéressant ce qu'il me disait là. Il est en train de me dire qu'il y a des chrétiens qui passent leur vie à attendre que les portes s'ouvrent pour savoir si c'est la volonté de Dieu de s'engager dans tel ou tel ministère. Et ils passent finalement leur temps à rien faire, leur vie à rien faire pour l'œuvre de Dieu. Il me dit, écoute, accroche-toi pas les pieds dans ça. Fonce. Tu peux être sûr d'une chose, si c'est pas la volonté de Dieu, tu peux forcer comme tu veux, la porte, elle va rester fermée. Et moi, je me suis appliqué à faire ça dans ma vie chrétienne. Et Dieu, quand c'était pas le temps, je forçais pas la porte, ça me donne quoi de lutter contre Dieu? Je forçais pas la porte, j'attendais. Et si elle ne s'ouvrait jamais, Dieu me montrait une autre porte qui allait ouvrir. Il me montrait sa direction à suivre. Dieu veut que nous comprenions ce qu'il veut et que nous fassions ce qu'il veut. Verset 22. La deuxième vérité que je porte à votre attention ce matin, c'est que ce que Dieu veut, c'est de nous appeler dans un endroit où il fait bon le servir. Il est écrit au verset 22, et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, « Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Il est bon, frères et sœurs, qu'on sorte ensemble les uns les autres. Il est bon, frères et sœurs, qu'on se fréquente les uns les autres. Et on a besoin d'apprendre à nous fréquenter les uns les autres puisqu'on est appelé à passer l'éternité à se fréquenter. » Alors ici, on a le choix de se fréquenter ou pas. Mais là-haut, on n'aura pas le choix, puisqu'on est appelé, je ne veux pas dire condamné à passer l'éternité ensemble, mais appelé à passer l'éternité ensemble. Amen. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez qui va changer en haut? Simplement le décor, hein? La joie et la paix qui viennent du Saint-Esprit. Vous n'aurez pas une dose supplémentaire en haut, hein? Là, vous l'avez maintenant. Le problème, c'est qu'on doit lire les Écritures pour comprendre en quoi consiste cette joie et cette paix en Jésus-Christ. Il y a des gens qui pensent qu'en arrivant au ciel, tout va changer, quoi. Hey, c'est le décor qui change. Mais les promesses de Dieu, elles sont pour maintenant et pour l'éternité. C'est important qu'on saisisse ces choses-là. Ça nous motive souvent. Ce que Boaz avait demandé à Ruth ne constituait pas un fardeau pour elle, mais une bénédiction. Ce qu'il lui avait ordonné n'était pas quelque chose qui avait pour but de les décourager, elle et Naomi, mais de les encourager. Nous devons voir que ce que Dieu veut est plus qu'un travail, c'est quelque chose de bon qui s'accomplit dans la joie. C'est vrai qu'il y a des déceptions dans le ministère. C'est vrai que j'investis beaucoup de temps chez des gens qui abandonnent le Seigneur après. Mais vous ne perdez pas votre joie parce que vous dites, c'est pas mon œuvre, Seigneur. C'est pas mon problème, c'est le tien. C'est ton œuvre. Et vous pouvez pas sentir le ministère comme un fardeau. J'ai dit cette semaine à la réunion de mission vacances que il faut être appelé pour être pasteur d'une église. C'est pas un job. Quelqu'un qui prend ça pour un job, il risque de tourner, de virer fou, quoi, dans quelques années, quoi. Ah, si je vous parle de la pluie du beau temps, c'est facile de rester derrière la chair, quoi. Vous dites que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Mais c'est pas facile. Et je vous l'ai déjà dit depuis plusieurs, ça fait un certain temps, la seule chose que je ne voulais pas faire en ministère, c'était être pasteur. Je me sentais vraiment pas capable. Et pourtant, Dieu m'a dit, c'est la seule chose que je veux. C'est la seule chose à laquelle je t'appelle. Et je comprends pourquoi, parce que j'étais pas capable. Et c'est lui qui agit, qui a travaillé dans mon cœur, qui a travaillé dans ma vie. Naomi dit, il est bon. Ce que Boaz voulait que Ruth fasse, c'était bon. Il n'y avait rien de plus merveilleux qui aurait pu arriver dans la vie de Ruth que d'entendre Boaz lui dire de rester dans son champ. Je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus merveilleux qui peut arriver dans votre vie que d'entendre vous dire, « Voilà ce que je veux que tu fasses. » J'ai connu des gens qui regrettaient de ne pas avoir fait ce que Dieu voulait, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui regrettait d'avoir fait ce que Dieu voulait. Combien j'ai rencontré des gens sur le point de mourir qui me disaient, « Ah, ce pasteur, tu peux pas savoir comment je regrette ma vie chrétienne. Ah, tout ce que j'aurais pu faire et que j'ai pas fait. » Il va mourir. Ah, c'est bien, gloire à Dieu qu'il le regrette. Mais j'ai jamais rencontré quelqu'un qui regrettait d'avoir fait ce que Dieu lui demande de faire. Au contraire, souvent, ceux qui sont zélés pour le Seigneur disent, j'aurais dû en faire plus encore. J'aurais dû. Je pense à ce que Paul dit dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2. On va le lire ensemble. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Pensons à ce que Paul dit dans Romains chapitre 12, les versets 1 à 2. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous demande de vous offrir vous-même comme un sacrifice vivant réservé à Dieu qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer par un changement complet de votre intelligence. Frères et sœurs, de quelle façon Dieu peut changer notre façon de penser, notre façon de voir les choses, c'est à travers sa parole. Mais regardez les résultats. Regardez, il donne 4 résultats si on laisse Dieu transformer notre intelligence, transformer notre façon de penser et nous laisser nous amener à penser comme Jésus. Regardez ce qu'il dit ici. Mais Dieu, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer par un changement complet de votre intelligence. Vous pourrez alors comprendre, un, premièrement, ce que Dieu veut, quelle est la volonté de Dieu. Deux, ce qui est bien, vous allez être en mesure de faire la part des choses. Qu'est-ce qui est du monde et qu'est-ce qui vient de Dieu? Trois, vous allez être capable de lui être agréable, parce que vous allez avoir pris la décision de marcher selon les valeurs de Dieu. Et quatre, ce qui est parfait, vous allez connaître ce qui est parfait. Les 4 choses ici, vous pourrez alors comprendre ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Et ça ne se trouve nulle part en dehors de la parole de Dieu. Frères et sœurs, le monde a aussi sa parole. On appelle ça un code civil, un code criminel. Mais nous, on a notre code. On a notre code de bonne conduite qui s'appuie sur les valeurs morales de Dieu, qui nous décrivent quel est le caractère de Dieu, qui nous décrivent exactement comment Dieu veut que son Église vive, qui demande, on a tout dans sa parole. C'est un miroir. C'est extraordinaire. En quoi il était bon pour Ruth de rester dans le champ de Boaz? Rapidement, premièrement, il y avait les ressources du champ. Elle bénéficiait de la protection du maître. Verset 9. D'abord, nous voyons qu'elle était protégée dans ce champ. Il est écrit au verset 9, « Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle, va vers les servantes. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, de t'es protégé. » Moi, ça me rappelle quelque chose de, Job, hein. Le diable a pu toucher à Job uniquement parce que Dieu lui a permis, hein. Et si le diable veut vous toucher et que Dieu ne veut pas lui permettre, il vous touchera pas, hein. Ici, elle bénéficie de la protection de Boaz, hein. Boaz a donné un ordre. Vous ne lui touchez pas, quoi. Elle bénéficie de la protection de Boaz ici. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Boaz a vu à ce que personne ne mette la main sur elle ou prenne avantage sur elle. Elle aussi, deuxièmement, elle a trouvé ce qu'elle avait besoin dans les champs. Il est écrit au verset 15 et 16. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes et ne l'inquiétez pas. Et même vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproches. Non seulement Boaz a répondu à ses besoins, mais il lui a donné au-delà de ses besoins. Il lui a donné au-delà de ses besoins. Elle est partie avec 30 kilos d'or sur ses épaules, quoi. À moins d'avoir un gros problème de gourmandise, ça dépassait ce qu'ils avaient besoin tous les deux pour la journée, quoi. 30 kilos, ils en avaient pour au moins une semaine. Moïse a veillé à ce que tous ses besoins soient satisfaits et même au-delà. La volonté de Dieu correspond à l'endroit le plus sûr qui soit. C'est là que nous trouvons tout ce dont nous aurions jamais pu espérer recevoir. La volonté de Dieu ne vous conduira jamais là où la grâce de Dieu ne peut pas vous garder. La volonté de Dieu ne vous conduira jamais là où la grâce de Dieu ne peut pas vous garder. De plus, qu'est-ce qu'elle a rencontré, versets 21-22? Des gens avec qui elle a développé dans le champ une relation sincère. Voilà pourquoi on doit rester dans l'Église. C'est dans l'Église qu'on développe des relations entre frères et sœurs. Et ici, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque Ruth a quitté Bethléem, elle ne connaissait personne d'autre que Naomi. Mais lorsqu'elle a commencé à travailler dans le champ, elle a développé des contacts et établi des relations avec les autres. Elle a rencontré, verset 21, des serviteurs. Verset 22, des servantes. Lorsque quelqu'un entre dans l'Église, lorsqu'il fait partie du royaume de Dieu, il rencontre des frères, il rencontre des sœurs avec qui il est appelé à travailler. Et nous bénéficions de la protection de Dieu. Amen. Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Et sachez-le, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous bénéficions de la protection de Dieu à chaque jour. Mais la chose la plus importante ici, frères et sœurs, c'est la présence du Maître. En étant dans le champ jour après jour, Ruth était en contact permanent avec lui sur une base régulière. Chaque jour, elle était avec Boaz parce qu'elle était dans son champ. Frères et sœurs, la partie la plus agréable dans la volonté de Dieu, c'est la proximité que vous avez avec lui. Jésus dit, je suis présent avec vous tous les jours et ça jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs, est-ce que vous pensez que si on baigne dans le péché, Jésus, on peut ressentir sa présence? Ben non, hein? À travers son Saint-Esprit en nous. Est-ce qu'on peut penser qu'on va faire du Saint-Esprit le complice de nos péchés? C'est impossible, quoi. C'est impossible. Et là, à ce moment-là, on se sent très seul. Mais c'est pas normal qu'un chrétien se sente seul. Oui, il peut être déprimé. Oui, il peut être attristé. Oui, il peut être abattu. On a des exemples dans la parole. Et le psalmiste dit, « Tu es mon refuge, tu es mon rocher, tu ne m'as jamais abandonné. » Et Dieu dit dans le psaume qu'en David, il a trouvé quelqu'un qui a accompli toute sa volonté. Bien sûr, il y a l'épisode de Bathsheba, mais il dit, « En David, j'ai trouvé un homme selon mon cœur, dit le Seigneur. » Et David a bénéficié des bénédictions du Seigneur. La troisième chose, et je termine avec ça, que j'aimerais porter à votre attention, c'est qu'à la volonté de Dieu, c'est de le servir jusqu'à la fin et de ne pas abandonner. Verset 21. Non seulement Boaz voulait que Ruth soit dans son champ, mais il voulait qu'elle reste dans son champ. Il est écrit au verset 21, Ruth la Moabite ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Nous lisons également au verset 23, elle resta donc avec les servantes de Boaz pour de l'année jusqu'à la fin de la moisson des orges et la moisson du froment. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Il lui avait été dit de rester dans le champ jusqu'à la fin de la moisson. Il est écrit qu'elle obéit et qu'elle demeura dans le champ tel que demandé par Boaz. Frères et sœurs, la volonté de Dieu est un lieu où on le sert avec dévouement. Un dévouement qui se termine à la fin de la moisson. Et ça fait partie de la persévérance des saints. Jésus a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je suis avec vous. » Je ne répéterai pas le verset qu'on a lu tantôt, mais je suis avec vous. Rappelez-vous que je suis avec vous. Et rappelez-vous qu'il y a quelqu'un qui cherche à essayer de vous faire croire que je suis pas là, que je vous ai abandonné, que vous êtes seul, que je vous laisse vous débrouiller toute seule. Non, je suis là. Rappelez-vous qu'il est meurtrier depuis le commencement. Rappelez-vous que c'est le père du mensonge. Et rappelez-vous que je suis le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne va au Père que par moi. Je vous ai tracé le chemin. C'est ce qu'il dit à un de ses disciples, hein? Je suis avec vous depuis si longtemps et tu connais pas? Être à son service, c'est le servir avec dévouement. Ruth devait travailler jour après jour dans le champ. C'est ce que Boaz lui avait ordonné. Et frères et sœurs, nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu jour après jour, en étant dévoués et participer à l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Un service dévoué implique également de le servir jusqu'au bout, donc on rentrera pas dans ces détails-là, mais jour après jour, elle est demeurée dans le champ, elle accomplit parfaitement le plan que Boaz lui avait donné. J'aimerais terminer par une petite histoire. Ça se passe pendant la construction du pont de Brooklyn. L'ingénieur qui était chargé de surveiller les travaux se blessa. Pendant plusieurs mois, il fut condamné à rester couché dans un lit et considéré comme invalide. Jour après jour, sa femme portait ses ordres et les plans au contremaître du chantier. Finalement, la construction du pont fut achevée après plusieurs mois. L'architecte invalide demanda à ce qu'on le transporte sur les lieux des travaux afin de voir le pont. On le plaça sur un lit de camp et on le transporta à un endroit où il pouvait voir la grande structure du pont. Il scruta attentivement le travail accompli en jetant un coup d'œil sur les grands câbles, les immenses colonnes et les puissantes poutres qui permettaient au pont de tenir en place. Il vit que chaque détail avait été soigneusement exécuté comme il l'avait voulu. Et ces détails, eh bien, c'est tout ce qu'on retrouvait sur les plans que lui avait dessinés. Et puis, avec la satisfaction du devoir accompli, son cœur fut envahi d'une joie profonde, parce que tout ce qu'il avait vu correspondait exactement à tout ce qu'il avait mis sur papier. Il s'écria, c'est exactement comme sur les plans. Et son cœur débordait de joie. Jésus a dit dans Hébreux chapitre 10, versets 9 et 10, « Voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. » Parce que Jésus a accompli ce que Dieu voulait, nous sommes purifiés du péché par l'offrande qu'il a faite de son propre corps une fois pour toutes. Il a suivi le plan de Dieu pour sauver l'humanité. Il aurait suffi d'une seule fois que Jésus dise non à la volonté de son Père pour qu'aujourd'hui on soit désespéré pour l'éternité. Il a non seulement accompli ce qu'il avait à faire, mais il l'a accompli parce qu'il a fait la volonté de Dieu en tout temps. Ma prière ce matin, c'est que je puisse dire « Je veux faire sa volonté et rester dans son champ jusqu'à ce qu'il me rappelle à la maison » ou qu'il vienne me chercher pour entrer dans la maison du Père. Je vais être capable de le regarder et l'entendre dire, « Tu as exactement fait comme le plan. » Matthieu chapitre 25, 21, et c'est la dernière. Jésus dit, « C'est bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Et moi, j'ai lu ce passage-là plusieurs fois depuis que je suis chrétien, et il y a quelque chose qui m'a frappé ce matin, parce que je l'ai rajouté avant d'arriver. C'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je dis, okay, c'est bizarre, il y a une faute, ça doit être en beaucoup de choses. En peu de choses, je te confierai beaucoup. Il dit pas, tu as été fidèle en peu de choses, je vais te confier peu. Mais qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Je connaissais tes capacités. À travers tes capacités, le peu que tu accomplis, ça m'a glorifié parce que tu as fait ma volonté. Et il dit, je vais te confier beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Extraordinaire, quoi. Ça m'a frappé, ça. Ça m'a frappé. Je m'attendais, écoute, tu as accompli beaucoup pour moi. J'aime mieux dire et j'aime mieux entendre dire le Seigneur, écoute, tu as accompli peu, et voici, je vais t'offrir beaucoup, que de dire, écoute, tu as accompli beaucoup de choses pour moi, mais tu n'as jamais fait ma volonté. La Bible est claire, je vais être rejeté, quoi. C'est les œuvres, le salut par les œuvres. Mais quelle grâce on a d'entendre le maître. Ce Jésus merveilleux qui nous dit, écoute, bon et fidèle serviteur. Ouais, bon et fidèle serviteur. Oui, t'étais fidèle en peu de choses. Mais je connaissais tes capacités. T'as cherché quand même à faire ma volonté. Voici maintenant, je vais t'offrir beaucoup. Amen. Qu'on puisse vraiment se rappeler qu'on est tous des incapables et que notre puissance, elle ne s'appuie pas sur nous. Et c'est en Jésus-Christ qu'on devient capable de faire en sorte que l'œuvre de Dieu puisse progresser dans ce monde qui est perdu.